poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Voici d'abord le rappel de quelques manifestations culturelles ou cultuelles qui auront lieu prochainement, surtout dans notre région. Commençons par l'été au Musée du Désert. Le musée est ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre, de 9h30 à 18h30. Avec une exposition temporaire dans la cave voûtée du musée, la Bible des contrastes d'Henri Lindegarde. Pour le pasteur Henri Lindegarde, 1925-1996, qui a exercé ses talents de peintre au Mas Soubéran, l'image est une prédication pour les yeux qui nous conduit au plus profond du sens de la parole que Dieu adresse à chaque homme. Au musée du désert à Mialet, dans les Cévennes, près d'Anduze, le samedi 19 juillet, vous pourrez participer à une assemblée nocturne vers 21h30, à la tombée du jour, dans l'atmosphère des assemblées clandestines au temps du désert, avec l'ensemble des communautés du secteur. C'est donc le samedi 19 juillet à 21h30. Culte bien entendu ouvert à toutes et à tous. D'autre part, l'Office du tourisme Cévennes Tourisme organise dans le parc de l'Assemblée du désert une soirée exceptionnelle le mercredi 23 juillet à 21h. 23 juillet à 21h, il s'agit d'une soirée conte pour tout public d'une durée de 1h. Renseignements et réservations à Cévennes Tourisme. Les conférences du mercredi soir à 18h30, connues sous le nom de « Les mercredis du désert », commenceront le mercredi 30 juillet, avec une conférence de Patrick Cabanel sur le thème « L'énigme de la croix huguenote ». D'autre part, le mensuel régional Le CEP annonce quelques grands rendez-vous. Le 18 juillet à 18h, au Temple de la Salle, conférence sur l'iconographie des prisonnières de la Tour de Constance. Et puis un concert intitulé « B.A. Bach, Inspiration », concert qui sera donné tout d'abord au Temple de Saint-Jean-du-Gard le 12 juillet à 16h, puis au Temple de Lézan le même jour, le 12 juillet à 20h, et enfin au Temple de Millau le 13 juillet à 17h, donc le concert B.A. Bach. Annonçons aussi des temps de prière qui auront lieu tous les mercredis jusqu'au 13 août à 18h au Temple de Villemejane. Le mensuel Le CEP nous rappelle aussi que le dimanche 27 juillet aura lieu la traditionnelle assemblée de l'Hospitalet, près du Pompidou. Le CEP précise « Le 24 septembre 1689, s'est rassemblée à l'Hospitalet une centaine de Cévenols venus défendre sa foi et son culte, se fortifier contre la violence qui lui était opposée et résister à cette oppression contre sa liberté de conscience. 336 ans après, l'Assemblée de l'Hospitalet maintient vivant ce lieu de mémoire en invitant à participer à un culte et à entendre des paroles d'espérance. Culte de la matinée, présidé par Nelly Gatta, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France. Conférence de l'après-midi donnée par le pasteur François Claveroli sur le thème « Face aux déchirures du monde, comment résister ?» Rappelons que la ferme de l'Hospitalet se situe sur le Cann du même nom, surnommé également le Petit Causse, proche du village de Pompidou et de Saint-Laurent-de-Trèves. Le site historique se trouve sur les terres de la famille Pin. Fédération protestante de France. Rappelons tout d'abord que la Fédération protestante de France est l'instance représentative du protestantisme français auprès des pouvoirs publics. Depuis sa création, en 1905, la Fédération protestante de France en accompagne son renouvellement et son élargissement dans le pays. Riche de sa diversité confessionnelle, elle propose un témoignage commun au sein de la société par ses services, ses réflexions et ses actions. Ses membres s'inscrivent dans la longue tradition des réformes du XVIe siècle et de celles qui ont suivi. Luthériens, réformés, anglicans, évangéliques et réformés évangéliques, libristes, méthodistes, baptistes, mennonites, adventistes, salutistes, pentecôtistes, charismatiques, tous et toutes contribuent à la richesse de cette diversité protestante. En France, la majorité des protestants est rattachée à la Fédération protestante de France. Près de 2 millions de personnes se réclament du protestantisme. Sur 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, 880 millions sont protestants. La Fédération protestante de France rassemble 28 unions d'églises, 7 églises associées et plus de 80 associations regroupant 500 institutions, œuvres et mouvements. La Fédération protestante de France favorise le partage et le débat en son sein pour fortifier le lien qui unit ses membres. Les églises, les communautés, les institutions, les œuvres et les mouvements. Elle est présente dans la société par la réflexion et le travail de ses commissions. Commission écologie et justice climatique, commission éthique et société, commission droit et liberté religieuse, commission jeunesse, commission relations avec l'islam, commission relations avec le judaïsme, conseil scolaire, et de ces 4 aumôneries, aumôneries aux armées françaises, aux prisons, aux établissements sanitaires et médico-sociaux et aux aéroports. On compte 70 aumôniers militaires, 350 aumôniers des prisons, 130 aumôniers des établissements sanitaires et médico-sociaux et 2 aumôniers aux aéroports. Réfléchir, agir, témoigner. La Fédération protestante de France agit et communique par ses services. Le service des relations avec les églises chrétiennes et le lien fédératif entre églises, entre pôles, œuvres et mouvements. Le service télévision et le service communication. Engagé dans l'action d'entraide par ses œuvres et avec le réseau national associatif de la Fédération de l'entraide protestante, la Fédération protestante de France favorise l'action solidaire auprès des personnes qui lui sont confiées. Avec l'appui de la Fondation du protestantisme, elle lance, selon l'actualité, des appels de solidarité portés par Solidarité protestante. À propos du service télévision, on compte 53 émissions dominicales Solae, le rendez-vous des protestants sur France Culture, et 65 émissions Présence protestante sur France 2. Partagé. Membre du Conseil des Églises chrétiennes en France, CCEF, de la Conférence des Églises européennes, CEC, associé au Conseil œcuménique des Églises, COE, et membre fondateur de la Conférence des responsables des cultes en France, CRCF, la Fédération protestante de France entretient et développe des liens avec ses partenaires en France, en Europe et dans le monde entier, tant sur le plan œcuménique qu'interreligieux. Voici quelques exemples à propos de ces composantes de la Fédération protestante de France. Parmi les unions d'églises, institutions, œuvres et mouvements, on peut citer la Mission populaire évangélique. Parmi les œuvres et mouvements, on peut citer la CIMAD. Parmi les membres associés, on peut citer l'Église allemande ou l'Église japonaise ou suédoise. Et parmi les communautés, on peut citer la communauté de Pomerol à Saint-Étienne-du-Gré, tout près d'ici, ou la communauté des Sœurs de Rueil ou la Fraternité des Veilleurs. Je voudrais donner maintenant quelques précisions à propos de la CIMAD. La CIMAD a été fondée en 1939 au sein des mouvements de jeunesse protestants. De sa mission initiale auprès des évacués de l'Alsace-Lorraine, comme on disait à l'époque, fuyant l'avancée nazie, elle a conservé son nom, dont la signification d'origine est « Comité inter-mouvement auprès des évacués ». Mais aussi un lien avec le monde protestant et surtout une fidélité aux valeurs et aux engagements de ses fondateurs. Depuis plus de 60 ans, la CIMAD a adapté son action aux enjeux de l'époque. Elle s'est engagée auprès des Juifs menacés, a œuvré ensuite pour la réconciliation franco-allemande, s'est impliquée auprès des peuples du Sud en lutte pour l'indépendance et la décolonisation. À partir de la fin des années 70, la CIMAD s'implique de plus en plus en réaction au projet de loi réduisant les droits des immigrés. La grève de la faim en 1981 et la marche pour l'égalité et contre le racisme renforcent le positionnement politique de l'association. Fidèle à ses principes, la CIMAD entre dans les centres de rétention en 1984 pour y venir en aide aux étrangers reconduits. Tout au long de son histoire, la CIMAD est restée un mouvement engagé sans se satisfaire d'une simple posture caritative. Cette histoire, dont le sens et l'exemple fondent nos engagements actuels, un groupe de bénévoles a choisi de la préserver et de la mettre à disposition de ceux, membres de la CIMAD, organismes partenaires, historiens, qui souhaitent y accéder dans le cadre de recherches précises ou par simple curiosité. La CIMAD diffuse à ses donatrices et ses donateurs un journal intitulé « Action commune ». Son numéro de juillet 2025 est le numéro 85. La secrétaire générale de la CIMAD, Fanélie Carré-Comte, s'adresse justement à ses donatrices et ses donateurs dans ce numéro 85 de Action commune. Voici son propos. En ce début d'été, nos inquiétudes sont nombreuses concernant les conditions des personnes étrangères enfermées en rétention. Deux propositions de loi concernant la rétention administrative sont d'ores et déjà adoptées par le Sénat. La CIMAD dénonce vivement ces propositions qui, si elles étaient définitivement votées, entraîneraient de graves conséquences pour les droits fondamentaux des personnes enfermées en centre de rétention administrative. Dans ce numéro d'Action commune, Nous avons donc souhaité partager avec vous nos inquiétudes à ce sujet, avec un allongement sans précédent de la durée de rétention qui pourrait désormais être porté à 210 jours pour nombre de personnes enfermées en centre de rétention, avec le projet de remettre en cause l'accès effectif aux droits des personnes retenues à travers la fin de la mission d'accompagnement juridique qu'exercent les associations comme la CIMAD depuis plus de 40 ans dans les CRA, des reculs sans précédent sont en cours. Une nouvelle fois, derrière les murs des CRA se déploient les mêmes mécaniques visant les personnes étrangères. Elles sont stigmatisées, assimilées en permanence à des personnes dangereuses et soumises à des politiques migratoires désormais uniquement centrées sur des logiques de punition, d'enfermement et d'expulsion. Dans ce contexte où chaque jour amène dans le débat public son lot de stigmatisation contre les personnes étrangères, le soutien de nos donatrices et donateurs est déterminant pour nous permettre de renforcer notre indispensable mobilisation, notre action de témoignage et de plaidoyer, et de faire face aux politiques migratoires qui piétinent aujourd'hui davantage la dignité et les droits des personnes migrantes et réfugiées. Le don que vous nous adressez nous permettra également de déployer pleinement nos missions d'accompagnement des personnes exilées en difficulté, de sensibiliser le grand public aux enjeux des politiques migratoires, d'action d'apprentissage du français. Il garantira la pérennité et le renforcement nécessaire de nos actions, mais aussi notre essentielle liberté de parole, de dénonciation, de témoignage, d'interpellation. Je vous remercie sincèrement. Signé Fanélie Carré-Comte, secrétaire générale de la CIMAD. Pour terminer, je voudrais vous présenter un livre paru tout récemment aux éditions Olivetan, intitulé « Communiquer l'Évangile, stratégie et structure des Églises ». Son auteur est Fritz Linard. C'est une réflexion stimulante sur l'Église, ses stratégies et ses structures. Mais comment font les autres ? C'est la question que se posent les églises en crise, dont le nombre de membres, de participants au culte et de croyants diminue. C'est pourquoi cet ouvrage étudie quatre stratégies caractéristiques en présence de la modernité et de la postmodernité. Le rêve de Compostelle, composante parmi d'autres du catholicisme romain, l'adaptation libérale à la modernité, l'évangélisation évangélique, les réveils pentecôtistes. Chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses. Dans un deuxième temps, l'ouvrage élabore une manière d'être Église luthéro-réformée. Les objectifs d'une telle Église sont la communication de l'Évangile et la culture de la participation qui en découle. L'identité ecclésiale est à déterminer entre institution, interaction et organisation. La sainteté de l'Église, dans son sens théologique, est à comprendre en particulier dans le dialogue avec le catholicisme romain et le mouvement pentecôtiste. De même, les églises peuvent agir dans une logique d'église locale avec un pasteur généraliste ou sous la forme d'initiatives plus spécialisées. Enfin, alors que les abus spirituels et sexuels ont montré la nécessité de revoir la gestion du pouvoir au sein des églises, il importe de réfléchir à leur gouvernance. L'objectif de l'ouvrage est d'orienter la pratique ecclésiale dans son ensemble, dans la solidarité critique avec les différents acteurs. C'est donc « Communiquer l'Évangile, stratégie et structure des Églises » par Fritz Linard, publié aux éditions Olivetan. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que « Poussière et granit » que vous êtes en train d'écouter est diffusée le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.